remèdes et nature, les secrets de votre bien-être.
Bienvenue sur Manger Vrai, la radio sans filtre au service du bien-être, dans notre nouvelle émission mensuelle, Remèdes et nature, les secrets de votre bien-être. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Tardif, naturopathe, titulaire d'un doctorat en médecine alternative et complémentaire de l'Université de Moscou. Il est également le fondateur de l'Académie européenne des médecines naturelles avec une représentation au Canada. Mais il est aussi le créateur des produits Triplex. Alain a accepté de venir nous parler de son livre « Quand le ventre va, tout va » et nous délivrer les secrets du bien-être. Bonjour Alain, comment allez-vous ?
Bonjour, eh bien écoutez, ça va très bien, malgré cette période un peu compliquée.
Effectivement, période compliquée, mais nous allons rester positifs et votre apport et votre savoir vont nous redonner la pêche, la santé. Alors, dans un premier temps, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter afin que nos auditeurs puissent bien comprendre qui êtes-vous, même si vous êtes quand même aujourd'hui une référence dans le monde de la naturopathie, mais en même temps, comment avez-vous développé votre approche holistique ?
Alors, l'approche holistique que j'ai développée, en fait, je l'ai développée en 97. J'étais à l'époque à la fois passionné d'ésotérisme et passionné évidemment par la naturopathie. J'avais suivi des cours de naturopathie pendant 3 ans entre 94 et 96. Et j'ai commencé à exercer. En fait, en commençant à exercer dans le cadre des consultations, je me suis aperçu que il manquait une compréhension des liens précis dans ce que j'ai appris, une compréhension des liens précis entre le psychisme, le plan physique et le plan biologique ou vital. Et je m'étais appuyé sur l'approche numérologique de Pythagore, pour qui Pythagore, pour lui, il y a 3 dimensions dans l'univers, le 1, le 2 et le 3. Le 1, c'est l'énergie, le 2, la matière, le 3, les phénomènes ou la vie. Et le tout était recentré dans le centre de gravité du triangle 1, 2, 3 au point 4, le 4 étant l'unité qui rassemble le 1, 2 et 3. Et d'accord. Donc, appliqué à l'être humain, l'individu, c'est le 4. Et donc, le 4, l'individu, était composé d'une part énergie, d'une part matière et d'une part vitalité. Donc, j'ai commencé comme ça. Et en analysant, en approfondissant cette approche holistique, j'ai mis au point vraiment une vision holistique de l'être humain et des problèmes de santé de l'être humain et une compréhension des mécanismes de développement de la maladie du plan psychique jusqu'à sa traduction au plan physique. La traduction au plan physique étant ce que les médecins allopathes appellent des symptômes, c'est ce qui intéresse les allopathes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le processus qui amène à ça.
C'est vraiment le processus en amont qui vous intéresse, qui permet à travers votre découverte et vos savoirs de corriger, ou en tout cas d'accompagner l'individu à se corriger.
À se corriger, effectivement, en s'intéressant aux causes, donc, d'une part compensatoires, qui entraînent des problèmes de mode de vie ou de comportement de vie, la boulimie, l'anorexie étant des problèmes de comportement parmi les plus emblématiques, mais beaucoup de problèmes de santé sont liés à des compensations, des besoins compensatoires, et puis il y a aussi les problèmes psychosomatiques, les problèmes psychosomatiques qui sont un autre volet des problématiques de santé, et puis bien sûr les causes externes. Donc en analysant, dans le cadre d'une consultation, en analysant et les processus compensatoires, et les problématiques psychosomatiques, et les causes externes, on va avoir une vision globale de l'origine des problèmes de santé de la personne, et donc on pourra apporter une réponse globale.
D'accord, voilà. Donc en fin de compte, si on comprend votre démarche, on a un scanner en amont des problèmes liés à l'individu et par rapport aux 3 éléments que vous avez cités, et donc forcément, le professionnel que vous êtes va apporter des réponses adaptées avec des éléments de comportement, mais en même temps des réponses adaptées par rapport à la personne, l'individu, qui lui pense toujours à tort, ah, en prenant un cachet, un complément alimentaire, je vais trouver ma solution. Mais dans votre démarche, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment au scanner de l'individu. Alors justement, en ces temps difficiles, nous avons eu beaucoup de retours sur la radio Manger Vrai d'auditeurs qui nous font part de leurs problèmes quotidiens liés à la fois au stress, avec les confinements, les changements, bref, toute la dynamique liée à la crise sanitaire, l'anxiété qui aujourd'hui pèse sur nombreuses personnes qui soit attendent un emploi, soit l'ont perdu, soit ne savent pas s'ils vont le retrouver. Et bien entendu, ils nous ont fait part des problèmes liés, je dirais, à des soucis d'ordre intestinaux. Et vous avez écrit un livre qui s'intitule « Quand le ventre va, tout va ». Alors, je pense que vous pouvez nous donner un petit peu pourquoi, d'où est née cette idée d'écrire ce livre. Et je pense que votre démarche holistique s'est inscrite également dans cette dynamique d'écriture pour vulgariser quelque part l'approche de l'individu.
Alors, en fait, au départ, ce sont les éditions Solar qui m'ont proposé d'écrire un ouvrage sur ce thème. Et j'ai accepté pourquoi ? Parce que déjà le Bouddha affirmait que le sage est celui qui se porte bien des intestins. Donc, en partant de cette affirmation du Bouddha, on peut se dire que les intestins, c'est quand même une base de santé, une base aussi de sagesse. Et effectivement, on peut se dire que quand on est bien dans son ventre, si je puis dire, on est bien dans sa peau et on est bien dans son être. Le docteur Bach lui-même, avant d'avoir mis au point les élixirs de fleurs de Bach, avait étudié les bactéries pathogènes de la flore intestinale. Et on avait élaboré des nosodes, ce qu'il appelait les nosodes de Bach, il y en avait 12 nosodes, qui correspondaient à des états émotionnels. Donc déjà, d'accord, il avait une idée du lien entre la santé émotionnelle et la santé un peu plus physiologique, et il s'était appuyé sur des états pathogènes de la flore intestinale. Donc, vous voyez, les intestins, c'est vraiment sont au cœur. C'est un organe qui est au cœur de la santé selon le naturopathe.
D'accord. Et quand on lit votre livre, vous parlez de mon ventre, mon allié santé, et vous considérez l'intestin comme le deuxième cerveau. Alors justement, expliquez-nous pourquoi on considère que c'est le deuxième cerveau, et puis surtout, comment peut-on le sauver ?
Alors déjà, c'est le deuxième cerveau, ça on l'a démontré, les intestins sont très riches en neurones, hein, et d'autre part, les neurones intestinaux produisent une grande partie des neurotransmetteurs. D'accord. Notamment, les neurones intestinaux produisent 90% de la sérotonine, qui est le neurotransmetteur, pardon, qui module l'activité neuronale, qui module la perception du stress et une carence en sérotonine induit ou peut induire un état dépressif. Inversement, un excès de sérotonine peut induire un état de hyperanxiété ou même des migraines. Donc, la sérotonine, 90% de la sérotonine, c'est quand même très important. Et idem pour la dopamine. Les intestins, les neurones intestinaux produisent 90% de la dopamine, au point d'ailleurs que certains chercheurs et certains médecins neurologues ou autres dépistent la maladie de Parkinson en regardant ce qui se passe au niveau intestinal. Et il se dit qu'on peut dépister la maladie de Parkinson dès les intestins, parce que les neurones intestinaux producteurs de dopamine commencent à diminuer au niveau intestinal et s'enclenche le démarrage de cette maladie dite de Parkinson.
Hein? D'accord, donc effectivement, on s'aperçoit à travers votre description et votre explication assez, assez pragmatique, la notion de deuxième cerveau, c'est un élément clé. quelque part, et comme vous l'avez très justement décrit, à la fois c'est le cerveau des émotions, c'est le cerveau qui peut affecter le stress, et bien entendu la nourriture. Alors, quel est Alain votre secret justement pour gérer et accompagner au mieux ces émotions, gérer notre intestin pour que ces émotions, qui aujourd'hui sont assez importantes, ne deviennent pas un handicap, à la fois pour l'intestin, et bien entendu ne génèrent pas de nouvelles maladies, ou en tout cas de symptômes de maladies. Quelle est un petit peu votre recommandation ou les deux, trois secrets à faire partager à nos auditeurs?
Alors déjà, ce qui est fondamental, c'est de protéger la barrière intestinale. Cette barrière intestinale est faite d'une part de ce qu'on appelle la muqueuse intestinale, qui est une monocouche de cellules, donc parfaitement jointive, et qui sépare le contenu intestinal du sang et de la lymphe. Donc c'est une barrière qui permet d'absorber les nutriments utiles et de ne pas absorber les toxiques ou les toxines ou les aliments pas complètement digérés. Et d'autre part, il y a la flore intestinale, bien évidemment. Alors, ce qui est très important, pourquoi bien protéger cette barrière intestinale? Lorsque la barrière intestinale n'est pas protégée correctement, elle va être sensible à des aliments, des protéines mal digérées auxquelles on sera intolérant, ces fameuses intolérances alimentaires ou allergies alimentaires, comme par exemple au gluten ou au bêta-lactoglobuline du lait de vache, ça produit des réactions, si vous voulez, des réactions qui peuvent être auto-immunes, par exemple, mais qui peuvent affecter aussi le fonctionnement cérébral du premier cerveau, pour le coup. Hein. Donc, on a pu détecter, par exemple, que les gens qui sont hyperactifs, les enfants hyperactifs, ou des gens qui ont des tendances autistiques, donc ça peut aller jusque-là, hein. Ou alors des gens qui ont des scléroses en plaques ont intérêt à limiter ou arrêter les produits riches en gluten et les produits riches en bêta-lactoglobuline, d'une part, pour éviter de continuer à s'exposer aux agents qu'on ne tolère pas. Mais par ailleurs, comme c'est un révélateur que la barrière intestinale ne fonctionne pas, il faut renforcer cette barrière intestinale. Donc, renforcer cette barrière intestinale, ça veut dire, d'une part, adopter un réglage alimentaire en naturopathie, dont les bases sont très simples, pas de grignotage entre les repas. Tout ce qui est fruits crus à queue, tomates, yaourts, aliments acides, aliments capables de fermenter facilement, doivent être consommés uniquement en dehors des repas, vers 11h ou 17h, 18h. Hein. Donc, ça, c'est deux fondamentaux pour avoir une alimentation digeste. Voilà. Mais inversement, il faut éviter l'alimentation trop simpliste parce que là, on aboutit à d'autres types de problèmes. Par exemple, l'alimentation dissociée, c'est sûr, c'est très digeste. Mais là, par contre, on peut aboutir à des états de carence qui ne vont pas nuire à l'intestin, mais qui vont nuire à d'autres parties de notre organisme. Donc, les bases du réglage alimentaire, ça permet de restaurer ou de protéger, de préserver la barrière intestinale. On peut éventuellement accompagner ça d'une période de diète ou de jeûne, car les jeûnes ou les diètes sont des pratiques qui favorisent le repos digestif et donc la restauration de cette barrière intestinale. Mais évidemment, les diètes et les jeûnes, il ne faut pas non plus en abuser. Hein, il faut les employer à bon escient.
Oui, c'est comme tout. Il faut avoir, je dirais, à la fois la compréhension, l'accompagnement et l'application. Si on entend un petit peu votre démarche, moi j'ai une question qui me traverse l'esprit. Pensez-vous que l'origine de tous ces problèmes qui aujourd'hui apparaissent de façon flagrante au monde vient du fait qu'il y a un manque d'éducation alimentaire chez les jeunes, les adolescents, chez les adultes, parce qu'aujourd'hui la malbouffe se développe partout. On s'aperçoit que les produits transformés depuis 10 ans ont été multipliés par 20, par 30. Les linéaires, je dirais, des grands super, hyper sont abondants. Pensez-vous qu'il y a vraiment un manque d'éducation alimentaire là-dessus et qu'il y a des progrès énormes à faire au niveau à la fois des écoles, des émissions, toute cette dynamique, parce que quelque part, ce que vous dites repose à la fois sur, bien sûr, des savoirs que vous avez, mais aussi sur le bon sens.
Oui, alors ça repose sur le bon sens, exactement. C'est pas qu'une question d'éducation. L'éducation, c'est important. Mais c'est pas qu'une question d'éducation. C'est une question de bon goût, si je puis dire.
D'accord.
Moi, je trouve que c'est très mauvais goût, au petit déjeuner, d'associer un jus d'orange et un pain grillé avec une marmelade d'orange. Ça va pas ensemble du tout. L'acide de l'orange ne se marie pas gustativement, et ne serait-ce que sur un plan gustatif. Donc ça ne se marie pas du tout avec des tartines de pain un peu grillées avec une marmelade d'orange. Si je prends cet exemple basique du petit déjeuner à l'anglaise, on retire le jus d'orange, et là le petit déjeuner à l'anglaise sera tout à fait agréable au goût. Hein, et évidemment, c'est un petit déjeuner calorique, mais le petit déjeuner peut être calorique. Hein, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est une question de bon sens aussi. Et puis, une question d'envie de cuisiner. Parce que beaucoup de gens vont aller vers la malbouffe par facilité.
Oui, exact.
Et pas forcément que par manque d'éducation, mais par facilité en pensant que c'est compliqué de cuisiner, c'est long de cuisiner, etc. etc. Pour vous raconter une petite anecdote, tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo pour ma chaîne YouTube sur le pesto à l'ail des ours, pour montrer comment on fait du pesto à l'ail des ours. Donc j'avais cueilli l'ail des ours il y a 2-3 jours, et j'ai montré comment on lave l'ail des ours, comment on le hache, comment on le mélange avec du parmesan, de la poudre d'amande, un petit peu de gros sel, un peu d'huile d'olive, et comment on le mixe. Et c'est tout simple, en 5 minutes c'est fait. En 5 minutes. Et c'est extrêmement agréable. Après, ce pesto à l'ail des ours, on peut le tartiner sur du pain, des croûtons aillés par exemple, et on peut manger ça avec une soupe de poisson ou quelques crevettes et une petite salade de crudité, et c'est simple et en même temps c'est très bon. C'est simple à faire et très bon. Le problème, c'est que la plupart des gens ont une sorte de, je ne sais pas, presque une déprime par rapport à l'envie de manger et de cuisiner. Donc, il faut redonner le goût de vivre et de cuisiner. Manger, ce n'est pas uniquement des règles alimentaires, c'est aussi une envie de vivre ou un plaisir de manger et de vivre. Donc, pour moi, manger bien, c'est bien sûr respecter quelques règles alimentaires, mais celles que j'ai expliquées sont toutes simples, hein.
C'est des règles de bon sens.
Voilà, c'est des règles de bon sens. Et dans ce cadre qui est tout bête, eh bien, libérer notre créativité culinaire en utilisant même, pourquoi pas, des recettes toutes simples. Il y a des recettes extrêmement simples, on peut se faire plaisir avec. Donc, retrouver ce goût de manger. Et c'est quelque part aussi se reconnecter avec la nature. Parce que beaucoup de gens vont vers la facilité, ils sont stressés, ils sont perdus, ils ne sont plus connectés avec la nature et avec leur propre nature, et quelque part, ils sont plus somnubilés par la performance, la peur de perdre son emploi, etc., etc., plutôt que vivre, tout simplement. Et la crise qu'on vit actuellement, c'est vraiment une exacerbation de ce sentiment-là de stress, de peur, etc., alors qu'il suffit de vouloir vivre, tout simplement.
Hein ? Mais je crois que vos paroles en disent long, parce qu'effectivement, vivre, c'est éviter la tentation de la facilité. Vivre, c'est effectivement un retour aux bases naturelles. La Terre nous donne tout, il suffit de se pencher et de travailler avec elle. Et en même temps, avoir l'accompagnement que vous avez eu la gentillesse ce matin d'éclairer nos auditeurs. Mais une fois de plus, si on prend la trame de votre discours, on est à la fois sur le savoir du professionnel que vous êtes, sur le bon sens de notre éducation naturelle et sur le retour à l'envie de vivre, l'envie de manger, l'envie de comprendre ce qui se passe. En tout cas, Alain, un grand merci pour toutes ces explications. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Quand le ventre va et tout va » aux éditions Solar Santé. Bien entendu, l'ensemble de vos coordonnées seront inscrits sur cette émission, que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, car Manger Vrai est une radio 100% dédiée, je dirais, à la nourriture et au bien-être. Et plaisir, Alain, de vous retrouver dans d'autres émissions pour accompagner ce déroulé et cette éducation, et en tout cas cette illustration. Un grand merci et je vous souhaite une bonne journée, Alain.
Eh bien, à vous aussi, à tous les auditeurs, et puis c'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir, je ferai des émissions, bien évidemment. À bientôt.
Remèdes et nature, les secrets de votre bien-être.